Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. C'est reparti pour une nouvelle semaine dans le froid. Parce que c'est peut-être l'info à retenir de la journée.
Effectivement, il faisait moins 15 à Chamonix. Bonjour Pascal, par ailleurs. Moins 10 à Aurillac, moins 3 à Lorient ce matin. C'est rare en bord de mer. Il fait froid, vous l'avez compris, et c'est l'objet de la question du jour sur RTL.fr. Avez-vous augmenté la température du chauffage dans votre logement? À la une, également, c'est plus attendu, la réforme des retraites qui, malgré la contestation, poursuit son chemin. Elle était présentée en Conseil des ministres ce matin, l'occasion pour l'exécutif d'expliquer encore et encore pourquoi ce texte est si crucial, si indispensable à ses yeux, et pourquoi il ne cédera pas sur les fondamentaux. Revenir sur les 64 ans serait renoncer au retour à l'équilibre du système, estime ainsi à l'instant Olivier Véran. Dans cette édition également, deux policiers en garde à vue après la mort d'un homme hier au cœur de Paris. Des voitures françaises plébiscitées mais produites loin de nos frontières. La désillusion Caroline Garcia à l'Open d'Australie, et puis la ferveur qui monte dans les Flandres avant l'affiche du soir entre l'US Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, direction Lyon, capitale de la gastronomie, où se tient le très prestigieux concours culinaire des Bocuse d'Or. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. La vie sans bureau, aujourd'hui, on va parler travail hybride et flexible. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, avec une nouvelle tournée pour le chanteur Renaud.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute cette histoire du petit chat coupé en deux par un TGV gare Montparnasse à Paris. Est-ce qu'on peut retarder le départ d'un train pour sauver la vie d'un petit chat? Ça a animé tous les réseaux sociaux. Voilà une question sur laquelle tout le monde a un avis.
Et c'est donc pour ça que vous vouliez un billet de train tout à l'heure.
Ouais.
Non, j'essaie de suivre, Pascal. La météo, c'est avec vous, Louis Baudin, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, Céline. Bonjour, Pascal.
Bon, il fait froid, hein. Bon, ça voilà. Se réchauffe quand même ou pas?
C'était pour sauver le petit chat. Exactement.
C'est une vraie journée.
Mais c'est vrai qu'il fait froid. Il y a eu moins 15 à
Chamonix. Ah, oui. Ouais, exactement. Oui, ben ça y est, on est au cœur de l'hiver là, et d'ailleurs ça va être le
température extrême, c'est moins 15.
La plus basse ce matin, c'était moins 15. Voilà, donc du gris, du froid et encore un peu de neige.
Et pour tous les détails, Pascal, ce sera à la fin du journal.
RTL Midi.
Une nouvelle très formelle mais indispensable étape pour la réforme des retraites. Elle était présentée officiellement ce matin en Conseil des ministres à l'Élysée, où l'on vous retrouve. William Galibert, bonjour.
Bonjour.
Étape formelle, je le disais, car les grandes lignes du texte, on les connaît déjà. Mais c'est l'occasion pour l'exécutif de refaire de la pédagogie.
Oui, et on a même eu droit à trois ministres pour le prix d'un et une conférence de presse pour nous répéter encore une fois que cette réforme corrige aussi des inégalités et qu'elle est nécessaire pour l'équilibre des comptes publics. Une réforme également qui est le fruit du dialogue social, c'est ce que viennent de nous dire ces ministres. Nous répéter aussi que le gouvernement est prêt à l'enrichissement du texte, en clair, à quelques concessions, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire que ce n'est pas la rue qui fait la loi, mais bien les parlementaires qui pourront faire évoluer ce texte à l'Assemblée nationale à partir du 6 février. Et c'est loin, le 6 février, c'est dans 15 jours. L'idée là aussi, c'est de gagner du temps et de faire retomber la pression après les manifestations géantes de jeudi dernier.
William Galibert à l'Élysée pour RTL. Cette réforme défendue par le gouvernement était-elle la seule manière de rééquilibrer le système? N'y avait-il pas d'autres solutions? Et pourquoi, si c'est le cas, ont-elles été écartées? On y reviendra avec vous, William, et avec Nerissa et Mani tout à l'heure à 12h40.
Et je rappelle que la pédagogie, c'est la science de l'éducation des enfants, c'est sa définition. Deux policiers en garde à vue ce matin après la mort d'un homme hier près de la place de la République à Paris.
Les policiers ont tiré à quatre reprises sur l'individu qu'ils ont qualifié de menaçant, Guillaume Chiez, un homme de 49 ans qui avait brandi une arme de poing.
Oui, cet équipage en patrouille est appelé sur les ondes. Des passants viennent de signaler la présence d'un homme armé dans la rue au comportement étrange. Il joue avec son pistolet, le fait tomber au sol, le pointe vers un chien. Les policiers le localisent, descendent du véhicule. Selon leur première déclaration lorsqu'ils se sont approchés de lui. Ce marginal de 49 ans les aurait alors visés avec son arme. Réplique immédiate, deux policiers ouvrent le feu, tirent à 4 reprises au total. L'homme est mortellement touché. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'arme à feu était factice. Il s'agissait d'un pistolet à air. Les deux fonctionnaires sont actuellement en garde à vue, entendus par l'IGPN, la police des polices. Une procédure classique lorsqu'il y a un tir et une victime. Ils devront s'expliquer sur les circonstances exactes de leur intervention.
Guillaume Chiasbourg, RTL. Les ministres des Affaires étrangères européens sont réunis depuis ce matin pour évoquer une nouvelle fois leur soutien à l'Ukraine, avec toujours cette question de la livraison de chars lourds. La Pologne insiste, fait savoir ce matin qu'elle demandera officiellement l'autorisation de Berlin pour en envoyer, alors qu'en Allemagne, une partie du gouvernement pousse aussi le chancelier Scholz à agir en ce sens.
RTL Midi.
Le tennis, nouvelle désillusion ce matin pour Caroline Garcia.
La Française, quatrième mondiale, a été éliminée en huitième de finale de l'Open d'Australie par la Polonaise Magdalinette, 7-6-6-4. Caroline Garcia, une nouvelle fois rattrapée sur le court par ses émotions. Pourtant, Eric Silvestro, on pensait qu'après sa victoire au Masters, un cap avait été franchi.
Oui, ce premier très grand titre devait être le déclencheur parfait, le fameux verrou qui saute. Même le très critique John McEnroe avait décelé un changement positif ces 6 derniers mois et placé Caroline Garcia parmi les grandes favorites après l'élimination de la numéro 1 mondiale, Iga Świątek.
C'est une battante, mentalement elle est prête. Il n'y a aucune raison qui me fasse dire qu'elle ne peut pas gagner. Elle est désormais candidate à un titre du Grand Chelem.
C'était sans compter sur une autre Polonaise, Magdalinette, seulement 45e au classement WTA, mais qui à 30 ans atteint sa plénitude mentale et tennistique avec un premier quart de finale en Grand Chelem. Caroline Garcia, elle, a encore quelques démons à chasser.
Il y a déjà la pression que tu te mets toi-même par rapport à ce que tu as envie de faire, etc. Mes propres attentes sont assez hautes et des fois peut-être que c'est là aussi que moi je me tire une balle dans le pied déjà. Il faut qu'on arrive à trouver la bonne balance par rapport à ce que j'ai envie de produire sur le court pour réussir à me libérer de plus en plus et avoir le bon état d'esprit.
La prochaine opportunité, ce sera à Roland Garros en mai où la pression ne risque pas de baisser.
Non, ça c'est sûr. Merci beaucoup Eric Silvestro.
Melbourne où il fait 24 degrés actuellement.
20 de plus qu'à Saint-Philibert-de-Grandlieu dans les vignobles nantais où ça piquait, comme on dit ce matin. Mathieu Lopineau, on s'adapte comme on peut sur place à ces températures très fraîches.
Oui, effectivement, j'ai croisé Isabelle ce matin qui est nounou. Pas question que les enfants qu'elle garde prennent froid, forcément. Alors la nounou multiplie les couches.
Des chaussettes, un collant polaire. Il doit avoir 2 t-shirts. Ensuite, on lui met l'écharpe, le bonnet en laine. Voilà. Et puis, les moufles.
Hein,
on met, voilà.
Et un petit peu plus loin, dans la ferme de Cédric, dans ses champs, il faisait 2 degrés, pas plus ce matin. Alors, avec le cuir sur le dos, on peut se dire que les vaches n'ont pas froid. Mais l'agriculteur prend soin de ses animaux.
Il faut les nourrir beaucoup plus l'hiver, surtout en plein air. Comme ça, une vache qui a froid, elle mange beaucoup plus. Elle a besoin de plus d'énergie, de calories.
Dans cette ferme, Fabrice est maraîcher. Il scrute donc avec attention ses légumes. Il faut dire que les températures cette nuit sont tombées à moins 5 degrés au plus bas.
Bon voilà, on voit bien que quand même on a réussi à protéger cette nuit quoi. On met une protection supplémentaire qui a un voile non tissé qui permet de gagner à peu près 4 degrés quand on en met une couche. Et là en mettant 2 couches, on a gagné encore un petit peu plus. S'il n'y avait rien là, ce matin ça serait gelé. Hein. Les salades seraient mortes.
Pour le moment, pas de dégâts chez le maraîcher. L'an dernier, la récolte de légumes avait entièrement gelé.
Mathieu Lopineau à Saint-Philbert-de-Grandlieu pour RTL. Il fait froid donc près de Nantes, Louis Baudin, il fait froid presque partout en fait.
Et c'est assez normal à cette époque de l'année effectivement, même si globalement c'est vrai que les températures prévues cet après-midi entre 1 et 4 degrés dans la plupart des régions sont 4-5 degrés en dessous des moyennes de saison. Enfin on est en pleine période hivernale, on aura entre 5 et 10 degrés près de la Méditerranée, tout ça avec un ciel gris, hein, l'anticyclone est là, mais en hiver on sait qu'il enferme un peu l'humidité dans les très basses couches tout près du sol. Voilà pourquoi cette grisaille tiendra partout ou presque, on aura quelques éclaircies du côté de la Bretagne et puis autour du golfe du Lion, mais parce que là nous aurons du Mistral et de la Tramontane, et puis il restera un petit peu de neige, il neige en ce moment au pied des Pyrénées, il y en aura un peu également sur les Alpes ou encore le relief Corse.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
Il y a les Césars, il y a les Oscars, et pour les chefs, il y a les Bocuse d'Or.
Et ils sont lieu actuellement au parc des expositions Eurexpo à Lyon. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Les Bocuse d'Or, c'est un concours culinaire, donc c'est un peu la coupe du monde des chefs. 24 participants réunis, et parmi eux, une Française, Naïs Pirolet.
Exactement, la très jeune chef française qui représente la France est dans l'arène depuis plus de 3h30, boxe 4 avec ses deux commis pour 5h30 de concours très animé devant 2000 personnes, vous les entendez peut-être derrière moi, à chauffer la salle. Il y a également des journalistes et aujourd'hui ce sont les 12 derniers candidats venus des États-Unis, du Danemark ou d'Australie qui sont en piste.
Le palmarès sera connu ce soir, Frédéric. C'est un jury composé de 36 chefs venus du monde entier qui tranchera.
Exactement, il y a aussi un coach, c'est Édouard Loubet, 2 étoiles au Michelin, qui contrôle, chronomètre en main, avec une dizaine de chronomètres, ses écrans de contrôle, les temps de cuisson, les préparations. Il faut cuisiner 2 lots avec garniture et préparer un menu complet à base de courges. Pour les enfants, le Bocuse d'Or, c'est un marathon où tout est millimétré.
Suivre les chronos, de leur rappeler l'ordre au cas où il y a un petit moment une faiblesse de mémoire. De surveiller les cuissons, de surveiller les glaçages, voilà, de regarder la propreté avec la commis qui nous a été confiée. Voilà.
Vous avez l'œil sur tout.
Tout est noté, donc il ne faut rien rater.
Alors, il y a aussi, vous le disiez, un jury dégustation, c'est le plus important, et puis un jury cuisine qui passe de box en box, contrôler la qualité du travail, comme le détaille une des jurées françaises, Stéphanie Lekelec.
Nous sommes jury cuisine par binôme et on se balade à travers tous les box et on va noter les points techniques, la gestion des matières premières, la bonne tenue de l'hygiène du poste de travail, la bonne cohésion, la bonne communication, l'esprit d'équipe qui peut régner dans chaque box. La façon dont ils ont mené leur épreuve et leur travail en cuisine peut faire la différence pour un podium, pour une première ou une deuxième place par exemple.
Voilà, alors Naïs Pirolet a encore 2 heures pour terminer ses 2 lots et son menu à base de courge. Elle est très concentrée, calme en apparence. Et franchement, c'est un sacré défi avec le public qui chante, qui crie, près de 2000 personnes.
Hein. Exactement. Mais vous avez le droit de manger quelque chose, vous, Frédéric?
Ah non, rien
de goûter.
Rien du tout. On regarde, mais on l'approche pas. Elle ne peut pas dire 2 mots. Elle est vraiment, quand je dis concentrée, c'est quelque chose d'assez inouï. Elle décroche pas de.
Il y a beaucoup de monde qui. Parce qu'on entend une ambiance très importante derrière vous. Il y a beaucoup de public.
Il y a beaucoup de Danois qui sont très bruyants. Il y a des Américains. Il y a un peu de tout. Il y a des Français. Il y a à peu près, je vous disais, 1500, 2000 personnes au maximum. Mais ça sera plutôt en fin de journée pour le verdict.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Perruche au Parc des Expositions de Lyon, donc où se tiennent actuellement les Bocuse d'Or.
Christophe Bourou est là et il va nous parler voiture, c'est sa grande spécialité. J'ai écouté Martial Hugues ce matin, on ne fabrique plus du tout de voitures en France, c'est terminé.
De moins en moins.
Automobile, quasiment plus, si j'ai écouté Martial ce matin.
Encore, mais ça... Voilà.
Quel avenir pour les voitures françaises? On en parle dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Vous êtes content de votre bagnole, là? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. C'est français? Oui, ça doit pas être cher, quoi.
Mais ça, c'était à l'époque de Coluche et c'était avant. Aujourd'hui, rouler français, ce n'est pas forcément rouler made in France. Loin de là, selon les chiffres et les ventes rendues publiques par les constructeurs, 8 des 10 modèles français les plus vendus ne sont pas fabriqués dans l'Hexagone. Bonjour Christophe Bourou.
Oh, bonjour.
Spécialiste auto ici à RTL. D'abord, on parle de quelle voiture exactement?
Des voitures stars, tout simplement, comme la Peugeot 208, qui d'ailleurs, au passage, détrône, après 14 années de règne, la Golf comme modèle le plus vendu en Europe, c'est dire. Mais cette Lyonne a définitivement quitté l'usine de Poissy il y a 4 ans, direction la Slovaquie. À ses côtés, on trouve une Citroën, la C3, la Dacia Sandero, voiture la plus vendue auprès des particuliers, est assemblée au Maroc et en Roumanie avec le Duster, la Clio en Turquie, la 2008 et le Renault Captur en Espagne. 2 modèles seulement dans le top 10, dans le top 10, sont fabriqués en France. La 308 à Mulhouse et le 3008 à Sochaux. Bref, c'est simple. Le Made in France représente tout juste 15% de la production. C'est 233 000 voitures produites en France l'an dernier.
Dans le pays d'André Citroën, de Louis Renault, de la famille Peugeot, comment on explique un tel constat? On ne sait plus faire les voitures chez nous?
Alors si, bien sûr, on a encore des sites ultra performants et modernes, Douai, Mulhouse, Rennes, Flins, Poissy, etc., dans lesquels nos constructeurs d'ailleurs continuent à injecter des millions d'euros. Seulement voilà, produire en France, ça a un coût et les constructeurs ont une obsession, faire baisser leur coût de production. Exemple exemple tout simple, hein, lorsque la Peugeot 208 a commencé à se produire en Slovaquie et quitter l'usine de Poissy en France, on expliquait que eh bien, la différence de production était de 500 euros par modèle. Donc voilà, l'explication est ultra simple. C'est encore plus frappant pour Dacia à Tanger.
500 euros, c'est pas beaucoup.
Oui, mais vous multipliez sur le nombre de milliers de voitures en termes industriels, c'est énorme. C'est énorme. Là où les constructeurs sont en train de discuter
sur le moindre
euro...
Et on ne peut pas augmenter la voiture de 500 euros.
Si vous faites ça, les consommateurs vont se détourner de votre marque. C'est ça le problème. À Tanger, par exemple, où vous produisez la Sandero, mais le salaire moyen d'un ouvrier est de 240 euros. Voilà, donc il n'y a pas photo. Mais il y a un exemple inverse. Vous avez en France Toyota qui fabrique sa Yaris depuis 20 ans. On va arriver à la 5 millions de Yaris produites en France cette année. C'est un carton absolu. Ils ont investi 1,5 milliard d'euros dans l'usine française. Il y a un emploi aujourd'hui 5 000 personnes. Rien que pour la nouvelle Yaris, la firme Nippon a injecté 300 millions d'euros sur le site, a créé 350 emplois. Donc, il y a un contre-exemple qui est celui de Toyota.
Voilà. Vous parlez emploi justement et Toyota. En termes d'emploi, l'automobile, ça reste un secteur clé en France ou c'est plus le cas?
Oui, parce qu'on a les gros constructeurs, hein, Renault et Stellantis, et puis il y a toute une, on va dire, une galaxie autour. Vous avez les équipementiers, Michelin, Valeo, Plasticomium et une myriade de PME. Si l'on ajoute toute la partie commerce comme la vente et la réparation, l'ensemble de la filière concerne 9% de la population active. Autrement dit, c'est près d'un emploi sur 10 en France.
Est-ce que ça peut changer? On a beaucoup parlé de réindustrialisation à un moment donné.
Ça passe par l'électrique, hein, puisque les constructeurs français misent tout sur l'électrique. Ça peut sauver nos usines, Renault Douai et Maubeuge. La Mégane électrique, elle est fabriquée dans le Nord. On attend les futurs R5 et 4L. Stellantis a annoncé 12 modèles assemblés en France dans les prochaines années. Et puis on attend des usines de batteries dans le Nord. Seulement voilà, pour fabriquer une voiture, on va dire électrique, pour fabriquer un moteur essence, il faut 5 personnes, moteur essence ou diesel, là où il ne faut que 3 personnes. Pour fabriquer un électrique. Donc forcément, ça va avoir un impact fort sur l'emploi. On part de 65 000 emplois détruits d'ici à 2030.
Et vous n'avez pas parlé d'une certaine couleur, d'un climat autour de la voiture où on culpabilise beaucoup quand même les automobilistes.
C'est vrai.
Depuis des années d'acheter une voiture.
Et pire que ça, il y a l'attente. C'est-à-dire que comme les constructeurs ne savent pas trop, enfin en tout cas le pouvoir public ne dit pas voilà, il faut acheter de l'hybride, il faut acheter de l'essence, du diesel, que font les consommateurs? Ils attendent de savoir eh bien, quelles saucisses vont être mangées. Ça, je pense que c'est le pire.
Merci beaucoup.
L'attentisme.
Christophe Bourreau, spécialiste automobile ici à RTL.
Vous viendrez quand même au bureau demain?
Mais évidemment.
Eh bien, figurez-vous que les gens n'y vont plus au bureau. C'est la vie de bureau, c'est du passé. Et on en parle dans une seconde. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes à minute.
RTL Midi.
Votre vie.
Votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
le travail sans bureau. Depuis la crise du Covid, les lignes ont bougé avec l'essor du télétravail. Les bureaux sont délaissés par les salariés, mais aussi par les entreprises qui réduisent ainsi leurs coûts. Pour en parler avec nous, Christophe Burkhardt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'IWG France. IWG, c'est le leader mondial des espaces de travail flexibles. Alors d'abord, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est un espace de travail flexible?
Alors, on l'appelle généralement le coworking. C'est quelque chose que les gens comprennent plus facilement. Et effectivement, nous sommes leaders. Nous avons 3500 sites dans 120 pays dans le monde. En France, nous sommes présents dans 140 sites et couvrons 80 villes à peu près. Nous ouvrons un centre à peu près tous les mois.
Donc, vous proposez en fait des locaux partagés où les gens peuvent venir travailler, c'est ça l'idée?
C'est ça. Le mieux, c'est de le comparer au système traditionnel. C'est-à-dire que traditionnellement, dans le monde d'avant, on louait ses bureaux et on les exploitait soi-même en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, le standard devient de plus en plus de s'adresser à des opérateurs comme nous. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous choisissez la durée d'engagement. Si vous voulez rester une journée, un mois, ou 5 ans ou 10 ans, c'est vous qui faites ce choix-là. L'ensemble des services sont fournis par l'opérateur, donc vous n'êtes pas obligé de gérer la maintenance, l'entretien, tout ça, c'est fait pour vous. Et puis, les entreprises partagent les mêmes espaces, ce qui fait que les mètres carrés sont mieux rentabilisés. Un collaborateur dans un centre de coworking coûte 50% moins cher qu'un poste de travail dans une entreprise qui administrerait elle-même les bureaux.
Mais quelles sont les entreprises qui n'ont pas besoin de bureaux?
Toutes les entreprises ont besoin de bureaux. La vraie question, c'est... combien de temps les collaborateurs doivent-ils passer au bureau de l'entreprise. C'est-à-dire que vous aviez ce modèle avant où on prenait tous les matins des transports publics ou sa voiture, et sans réfléchir, on allait au sein de l'entreprise travailler dans son bureau. Aujourd'hui, un nouveau modèle est arrivé avec le Covid, puisque pendant le Covid, le nombre d'accords de télétravail a été multiplié par 10, et on a appris tous à travailler à distance. Ce nouveau modèle que l'on appelle le travail hybride est plébiscité à peu près par 70% des collaborateurs qui veulent avoir le choix du lieu, de l'espace de travail où ils vont aller chaque jour, en fonction de leur agenda, de leurs priorités. Quelquefois ce sera chez eux, quelquefois ce sera au sein de l'entreprise, quelquefois ce sera dans des centres comme les nôtres. Donc vous passez d'un lieu de travail à des lieux de travail. Le problème du bureau aujourd'hui, c'est quand les entreprises souhaitent que les collaborateurs continuent à y venir chaque jour sans raison.
Sans raison, ça dépend de l'activité. J'ai envie de dire, nous, on a une activité ici à RTL. Les journalistes, on n'imagine pas qu'ils ne soient pas présents dans les locaux.
Absolument. Vous pouvez avoir des journalistes qui...
C'est l'activité qui dicte.
C'est l'activité qui dicte. C'est le présentiel qui dicte. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être là pour faire des réunions de rédaction, pour faire du brainstorming, effectivement, les collaborateurs viennent. Lorsque vous êtes en déplacement à l'étranger ou en France... Eh bien, vous pouvez avoir accès à un bureau proche de l'endroit de chez vous. Si vous êtes de l'autre côté de Paris, vous n'avez pas besoin de revenir ici pour travailler. Donc, l'intérêt, c'est le choix qui est mis à votre disposition, et donc moins de temps passé dans les transports, des choses plus efficaces, qui n'empêchent pas le présentiel au sein de l'entreprise quand c'est nécessaire.
Alors, deux questions. D'abord, quel est le public ? Est-ce qu'on ne parle que de cadres ici ? Et est-ce que c'est un phénomène qui est essentiellement urbain ? Est-ce que vos locaux ne se trouvent que dans des grandes villes ?
Alors, c'est originellement... dans les grandes villes qu'on le trouve. Mais le fait que le modèle de travail hybride se démocratise fait que les gens ont envie de travailler proche de chez eux et de plus en plus proche de chez eux. Et donc, on voit un mouvement où, finalement, les gens s'éloignent des grandes villes et ont besoin d'avoir accès à des centres comme les nôtres. On a une marque qui s'appelle, par exemple, Stop & Work et qui installe des centres de coworking dans des zones résidentielles en deuxième ou troisième courante des grandes villes. Pas des endroits économiquement forts au départ. Mais les gens souhaitent pouvoir travailler proche de chez eux, viennent de temps en temps dans les grandes villes, dans les grands centres d'affaires, quand le présentiel est nécessaire. Mais le reste du temps, on voit un retour au travail et à l'économie locale dans ces territoires. Donc le modèle hybride change vraiment la géographie du travail et change le rôle des villes. Les petites villes commencent à avoir de plus en plus de poumons économiques. Les grandes villes, elles, ont des bureaux qui favorisent l'échange, qui font que quand le présentiel est nécessaire, les gens trouvent des espaces pour pouvoir échanger et travailler ensemble.
Vous ne m'avez pas répondu sur le profil des cadres, surtout ?
Alors, c'est tout le monde tertiaire. Donc, vous avez des professions libérales, des cadres d'entreprise, des équipes de développement. À partir du moment où vous avez un bureau, vous pouvez rentrer dans un centre de coworking. Les grands groupes en ont besoin pour simplifier leur empreinte immobilière. Ils ne veulent plus de petits espaces qu'ils administrent elles-mêmes. Ils gardent souvent leurs sièges sociaux. Les entreprises à très fort potentiel, on en a notamment dans une de nos marques qui s'appelle Spaces, ne peuvent pas anticiper la croissance de leur business. Donc, ont besoin de pousser les murs en fonction de leurs embauches. Donc ça aussi, ce sont des entreprises qui cherchent de la flexibilité. Et les TPE ou les professions libérales, elles cherchent quelque chose où elles n'ont pas à gérer l'entretien.
J'entends ce que vous dites et vous donnez évidemment les avantages pour le salarié qui y gagne beaucoup. Mais est-ce que l'entreprise y gagne ? Est-ce que le patron y gagne ? Est-ce que l'entreprise marche mieux ? C'est quand même la finalité de l'entreprise.
Oui, pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque vous offrez ce type d'aménagement de travail, vous pouvez recruter des talents et les garder plus facilement.
C'est un argument.
C'est un argument majeur, au même titre que la rémunération. Et la deuxième raison, c'est une raison économique. Lorsque vous optimisez les mètres carrés que vous payez, vous faites des économies. Comme je vous le disais, un poste de travail dans un centre de coworking, c'est 50% moins onéreux que dans ses propres locaux.
Merci beaucoup, Christophe.
On sait combien d'entreprises, par exemple, si c'est 5%, 10% des entreprises qui font appel aujourd'hui à vous, qui sont dans ce système-là ?
Écoutez,
on a un pourcentage ?
Nous, aujourd'hui, entre nos différentes marques, Spaces, ouais. Regus, etc., on a à peu près 50 000 clients. Donc, notre...
Ça reste très marginal, quand même ?
Non, oui, mais l'opportunité de croissance est énorme, puisque les grands cabinets de conseil expliquent que nous représentons aujourd'hui 2% du marché. D'ici 2030, nous représenterons 30% du marché.
C'est important, ce chiffre-là, quand même. Ça représente 2% simplement de l'entreprise. Il est 12h28, l'info revient. Merci beaucoup.
Merci.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12h30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de la grande édition de Céline à 12h30.
Et la réforme des retraites qui fait son chemin, elle était présentée ce matin en Conseil des ministres. Réforme défendue par l'exécutif qui explique encore en quoi elle est à ses yeux indispensable pour équilibrer le système. Mais cette réforme-là était-elle la seule possible? N'y avait-il pas d'autres moyens de financer les retraites? On reviendra sur les autres pistes et les raisons de leur écartement juste après le journal dans une dizaine de minutes. Dans l'actualité également, la famille de Laurent Pasquali qui veut porter plainte contre l'État. Pendant un an et demi, la justice lui a caché la mort du pilote. L'armée française qui n'est plus la bienvenue au Burkina Faso. Rien ne va plus entre Ouagadougou et Paris. La ferveur qui monte dans les Flandres. On parle Coupe de France. L'USPI de Cassel affrontera le PSG ce soir. C'est la Coupe de France comme on l'aime. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Steven Bellery viendra nous parler du chanteur Renaud qui s'apprête à repartir en tournée. Et puis ça ne vous aura pas échappé, il fait froid. Alors, cette question sur notre site rtl.fr. Avez-vous augmenté la température du chauffage dans votre logement?
Toutes ces questions, évidemment, on les abordera tout à l'heure avec les auditeurs. Je précise que plus d'une Française sur trois a déjà vécu une situation de non-consentement. Un rapport sexuel sous la contrainte, selon le baromètre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Une Française sur trois, c'est un chiffre extrêmement important. Vous pourrez témoigner tout à l'heure.
La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Louis Baudin, sur ce qui nous attend cet après-midi.
Beaucoup de gris dans le ciel, des températures encore très basses, et puis de la neige, il y en a pas mal en ce moment au pied des Pyrénées.
Merci Louis, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h,
RTL Midi.
Dans deux semaines donc, elle arrivera à l'Assemblée nationale et aujourd'hui elle était présentée en Conseil des ministres. Elle, c'est la réforme des retraites défendue par l'exécutif qui ce matin encore a justifié ses choix et notamment le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
Parce que le président de la République avait dit que la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans. Nous avons procédé au premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Refaire cette réforme, indispensable pour équilibrer le système, mais aussi pour revaloriser les pensions. C'est l'un des arguments mis en avant par l'exécutif, avec notamment cette retraite minimale fixée pour l'instant à 1200 euros brut. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour.
Vous avez pu vous procurer l'étude d'impact qui analyse ce qui changerait si la réforme des retraites était adoptée telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Alors, dites-nous, est-ce que les pensions augmenteraient vraiment ?
Oui, le montant moyen des pensions va augmenter. Mais attention, ce sera très très léger, presque imperceptible pour les Français nés en 62. 0,3% de hausse, 1,5% pour la génération 72. Ça, c'est la moyenne pour une carrière complète. Mais pour les salariés qui n'ont pas tout leur trimestre, là, la réforme va les pénaliser. Parce que la durée de cotisation va augmenter encore plus vite que prévu, avec 43 annuités demandées. Et donc, ceux qui n'auront pas une carrière complète auront des pensions plus basses. Finalement, là où l'augmentation des pensions sera la plus visible, la plus marquée, c'est pour les petites retraites. Comme le minimum contributif va être revalorisé et passer à 1200 euros brut, les pensions vont augmenter de 3% pour les retraités les plus modestes, en majorité des femmes.
Si vous ne réglez pas le problème du travail des seniors, les pensions mécaniquement vont baisser puisque les gens cotiseront plus alors qu'ils n'ont pas de travail.
C'est-à-dire qu'il faut travailler jusqu'au bout, en
exactement.
Tout cas, pour voir sa pension vraiment augmenter.
Exactement, et c'est le problème numéro un de cette réforme. Un des problèmes, en tout cas. C'est ce que nous disent les auditeurs.
Évidemment. Vous faites bien de le préciser, Pascal.
Lorsqu'ils nous appellent entre 13h et 14h30. Mais tout ça est mécanique. Tu ne travailles plus après 53, 54 ou 55 ans. En tout cas, tu travailles moins. Donc si tu dois aller jusqu'à 64 ans, forcément, ta pension elle va mécaniquement baisser.
L'espace d'une seconde, on a cru que c'était un édito. Vous avez bien fait de nous.
Point. Et j'arrive pas non plus à savoir ces 1200 euros bruts.
si ça touchera tout le monde ou uniquement ceux qui entrent dans la réforme.
Ça doit toucher tout le monde, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand le texte passera à l'Assemblée, parce que là, on aura toutes les précisions.
C'est très important, ça. Les auditeurs se posent la question à chaque fois.
Tout le monde pour une retraite à taux plein quand on a fait 43 ans.
Payé au SMIC.
À temps plein.
Exact.
Payé au SMIC. Voilà.
Point. À la ligne.
Merci Nérissa. C'était avec la réforme des retraites, l'autre gros sujet social du moment, le pouvoir d'achat grevé notamment par les factures d'énergie.
Et parmi les plus touchés, les artisans, boulangers notamment, qui manifestent cet après-midi à Paris pour demander une nouvelle fois de l'aide. Des boulangers comme François à Nantes, que vous avez peut-être entendu ce matin sur l'antenne d'RTL, expliquer à quel point il pouvait être coûteux de résilier son contrat d'électricité.
Total Énergie demande 15 000 euros pour que j'arrête mon contrat. Je suis encore engagé pour 2 ans, donc si je veux résilier le contrat, c'est avec pénalité. L'État dit, mais les entreprises sont des entreprises privées et elles font, excusez-moi, ce qu'elles veulent, malheureusement.
15 000 euros pour arrêter son contrat, ça fait tiquer. Arnaud Touche, est-ce que c'est normal ?
Oui, car la résiliation n'est pas gratuite. Le gouvernement et les fournisseurs ne se sont jamais engagés là-dessus. Si un boulanger, un boucher veut résilier son contrat, il en a parfaitement le droit, mais il s'expose à des frais. C'est le cas du boulanger nantais. Il a signé pour une durée de 3 ans en septembre 2022. Et à la date de la signature, eh bien Total Energy achète donc pour lui sur les marchés de l'électricité pour 3 ans. Et aujourd'hui, en janvier 2023, il souhaite résilier et interrompre son contrat. Eh bien Total Energy lui demande donc des pénalités, car l'entreprise s'est déjà engagé pour lui. En revanche, ce que peut faire le boulanger, c'est renégocier son contrat sans frais. Ça, c'est l'engagement des fournisseurs d'énergie il y a 3 semaines. C'est d'ailleurs ce que va faire notre boulanger nantais. Il va normalement pouvoir bénéficier d'un tarif à 280 euros par mégawattheure en moyenne pour toute l'année 2023. Pour cela, il a dû envoyer un formulaire à son fournisseur. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et il recevra sa réponse dans les prochains jours.
Et le fournisseur, il est obligé d'accepter ou il peut ne pas accepter ?
Si effectivement le boulanger rentre dans les conditions qui sont effectivement très claires, et les fournisseurs s'y sont engagés il y a 3 semaines, il pourra bénéficier de ce tarif.
Il faut suivre ce
bien dossier sûr.
Parce que Bruno Le Maire s'y était engagé.
Tout à fait.
Merci Arnaud Touche.
Pendant 1 an et demi, la justice a laissé la famille de Laurent Pasquali espérer son retour en vain.
Le pilote de rallye a été assassiné en 2018. Un an plus tard, son corps était identifié et pourtant, pendant de longs mois, Thomas Proutot, ses proches n'ont rien su. Ils vont donc porter plainte contre l'État.
Absolument, parce que c'est par la presse que la mère de Laurent Pasquali a finalement appris l'assassinat de son fils en 2021. Petit rappel des faits. Fin 2018, le pilote est assassiné par une officine criminelle sur fond de recouvrement de dettes. Son corps est brûlé et enterré en Haute-Loire. Un an plus tard, ses ossements sont retrouvés, puis identifiés grâce à l'ADN de la maman qui a été prélevée dès la disparition. Mais la justice ne la prévient pas. L'avocate Sandrine Pégan.
J'ai une maman qui était âgée de 80 ans et qui laissait tous les soirs une place libre à table en espérant que son fils rentre à la maison. La justice connaissait l'identification du corps, connaissait peut-être pas forcément les raisons, mais connaissait en tout cas l'état avec des balles qui ont été aussi retrouvées. On a préféré taire cette information à une maman. Pour moi, c'est inadmissible.
Justification des juges en charge du dossier. L'entourage du pilote a d'abord été soupçonné, mais aucun acte d'enquête sur la famille n'a été versé au dossier, selon l'avocate, qui s'apprête donc à déposer une plainte pour faute lourde contre l'État.
Merci Thomas Proutot. Et comme RTL vous le révélait ce matin dans cette affaire, un policier de la DGSI, le renseignement intérieur, est mis en examen. Il est accusé d'avoir fourni l'adresse de Laurent Pasquali à ses tueurs en utilisant les fichiers de la police.
L'armée française n'est plus la bienvenue au Burkina Faso.
D'après une lettre rendue publique ce week-end, mais dont l'Élysée n'a pas confirmé l'authenticité, Ouagadougou aurait demandé le départ des troupes françaises d'ici un mois. Un épisode de plus dans la dégradation des relations entre le pays du Sahel et Paris, Émilie Beaujard. Et
oui, notamment depuis le coup d'État de septembre dernier, le lieutenant putschiste Traoré engage alors un rapprochement avec Moscou. Dans le même temps, il suspend la radio RFI, les ONG financées par la France sont expulsées, puis les autorités réclament le départ de l'ambassadeur français. Et il y a quelques jours, le chef de l'État burkinabé aurait donc demandé le départ des 400 soldats français de la mission Sabre, une demande pas encore reçue officiellement, selon Emmanuel Macron qui s'exprimait hier soir.
J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion. Donc je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet.
Ce qui est sûr, c'est que comme au Mali et en Centrafrique, des campagnes de désinformation visent les forces françaises accusées de ne pas faire assez pour lutter contre les groupes terroristes. Les paramilitaires de Wagner pourraient donc profiter de ce désaveu orchestré pour arriver au Burkina. Pour l'instant, les autorités démentent s'être rapprochées des mercenaires russes.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL, merci.
RTL Midi.
Le football, et c'est le grand soir pour l'US pays de Cassel. Vous imaginez si Cassel sortait le PSG?
C'est effectivement l'adversaire du club de Régional 1, petit poussé de la Coupe de France. Ce soir, ce sera à 20h45 à Lens, dans un stade Bollaert bouillant et tout acquis à la cause des Flamands. À quelques heures du coup d'envoi, d'ailleurs, les supporters sont déjà bien échauffés, comme vous avez pu le constater à Cassel, Franck Hanson.
Cassel, Cassel. Ah oui, au café des supporters sur la Grand Place, vous l'entendez derrière moi, on a déjà révisé les chants pour ce soir. Des Flamands qui seront tous derrière ces amateurs de l'USPC, comme Frédérique Potisek, restauratrice impatiente.
C'est l'euphorie, là, c'est le Graal. Et ça va faire que monter en pression toute la journée. La magie de la Coupe de France, c'est ça aussi. C'est qu'un petit club comme Cassel puisse défier un grand club comme le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas les 8e, on peut en rêver. Hein. Ce soir, on sera là pour porter fièrement nos couleurs casselloises et mettre le feu à Bollaert.
Plus de 60 bus s'élanceront donc de Cassel, Hasbrouck et les villages du coin vers le stade Lensois. Plus de 35 000 places se sont arrachées. Il en restait encore quelques centaines ce matin. Rodrigue, le responsable du COP, a préparé ses troupes.
Jaune et noir, l'écharpe, le maillot de la porte de Berg aussi, le lion des Flandres, tout le monde est là et on prépare tout. La fanfare, elle va arriver pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, pour faire la fête. Ah oui, sûrement attendu, on sait jamais. Il faut y croire. Hein.
Et les joueurs ont passé la nuit à Lens, ensemble, mis au vert, comme des pros finalement, pour ce qui est un peu le match de leur vie. Ils n'auront rien à perdre ce soir, l'essentiel est déjà fait.
En 1957, El Biar, l'équipe algéroise d'El Biar, avait éliminé le grand stade de Reims. Et c'est une des légendes de la Coupe des France, donc tout est toujours possible.
Franck Hanson suivra ça en tout cas dans le stade, pour son plaisir, ce soir, à Cassel, pour RTL.
Il fait froid.
Bah oui, c'est
froid,
vrai.
C'est vrai.
Couvrez-vous, mais jardinez.
Mais oui, c'est bon pour la santé de jardiner.
C'est en tout cas ce qu'affirme une très sérieuse étude américaine parue dans la revue The Lancet. Travailler votre petit lopin de terre augmente l'activité physique, la consommation de fruits et légumes évidemment. Le jardinage permettrait également de réduire le stress, l'anxiété. Julie Bro, vous êtes allée rencontrer des adeptes dans les jardins partagés de Versailles, jardinier intarissable sur les bienfaits du potager.
Eh oui, ici, même en hiver, le jardin, c'est une institution, un rituel auquel on ne déroge pas. Chaque jour, pelle et cisaille en main, Christine prend soin de sa petite parcelle.
Les choux de Bruxelles, les navets, les carottes, puisque je fais surtout les carottes d'hiver et qui vont aller jusqu'au printemps.
Un rituel qui lui permet de manger correctement que des produits frais et bio directement dans l'assiette. Et à 79 ans, ça lui permet aussi de rester en forme physiquement.
C'est aussi bien du bêchage que de l'arrosage, donc on porte, on griffe la terre, on ramasse, donc on a un peu toutes les postures qui nous permettent effectivement, quand on a une articulation qui va un peu moins bien, parfois ça se débloque en ayant jardiné un petit peu.
Jardiner, c'est aussi un dépaysement assuré, car ici, au milieu des immeubles, il y a plus de 800 mètres carrés de verdure. Alors, après le travail, Renaud vient s'aérer l'esprit et discuter avec ses voisins.
C'est un autre monde, c'est d'autres relations avec des conseils, avec de l'entraide. Et c'est un endroit de décompression. Ceux qui n'ont pas de jardin, dès qu'il pleut, ils sont en train de dire « mais qu'est-ce que c'est que ce temps pourri là ?» Quand on a un jardin, c'est une bénédiction. C'est des détails, mais ça fait qu'on voit la pluie d'une autre façon.
La vie d'une autre façon.
Aussi.
Ici, tout le monde est unanime. Le jardin, c'est bon pour la santé et pour le moral. Mais surtout, comme on me l'a dit, comme l'ont dit plusieurs habitants, le jardin, c'est toute une vie.
Gardez encore un peu votre bêche, Julie, avant de rentrer à la rédaction. Merci beaucoup. La météo, on vous retrouve, Louis Baudin.
C'est le jour, quand même, de la météo. C'est la séquence la plus fraîche de l'hiver.
Oui, et puis surtout ça dure un peu, c'est ça.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, pour
c'est une bonne chose.
Ça va avoir du mal à rentrer.
C'est une bonne chose que ça dure.
C'est une très bonne chose.
Pourquoi ?
Enfin, la nature s'arrête.
Ah oui. Enfin, bah oui, tous les parasites sont tués parce qu'il faut que ça dure plusieurs.
Tous les parasites sont tués. C'est bien ça. C'est une bonne chose aussi.
Voilà, résultat cet après-midi, du gris sur toutes les régions, sauf en Bretagne où on aura quelques éclaircies, du soleil autour du golfe du Lion avec l'aide d'un peu de mistral et de tramontane, et puis il y aura quelques chutes de neige, il y en a là au pied des Pyrénées, il y en aura aussi cet après-midi sur les Alpes ou encore le relief corse, les températures 1 à 4 degrés. Je parle bien des maximales dans la plupart des régions, 5 à 10 tout de même près de la Méditerranée.
Merci Louis.
Dans une seconde, les pistes qu'a écartées le gouvernement.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme.
Vous aviez évidemment compris, chers auditeurs, car vous comprenez tout, que je parlais des pistes écartées par le gouvernement dans la réforme des retraites,
oui.
Céline.
Oui, bah, c'était très limpide, Pascal. Vous savez, ces pistes, les autres pistes qui auraient pu permettre de financer le système, des arguments qu'on entend beaucoup dans les manifestations des opposants à cette réforme des retraites. Et pour en parler, nous sommes avec Nerissa Emani. Rebonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et William Galibert en direct de l'Élysée. Rebonjour William.
Bonjour.
D'abord, baisser les pensions existantes. Demander en fait un effort aux retraités d'aujourd'hui. Ça, c'était une piste possible, Nerissa.
Oui, c'était possible. Et pour ça, je vous donne deux exemples. Aujourd'hui, les pensions sont indexées sur l'inflation. C'est une règle dans le régime général. Par exemple, au 1er janvier, il y a eu une augmentation de 0,8%. Si on enlève cet index, ça pourrait permettre de faire baisser les pensions et donc de gagner de l'argent. Selon certains économistes, baisser de 1 point les pensions de base, ça permet de générer 2,5 milliards d'euros d'économies par an. Alors le gouvernement a fait son calcul, lui ça voudrait dire 700 euros de moins sur les pensions par retraité et par an pour combler le déficit en 2030. Je peux vous donner aussi un autre exemple du coup pour faire baisser ces pensions, taxer ceux qui ont les plus grosses pensions.
Ah oui, on aurait pu affiner effectivement les pensions au-delà de 4 ou 5 000 euros, c'était une possibilité.
Une possibilité en utilisant par exemple la CSG, un projet là aussi vite écarté par le gouvernement.
Évidemment, c'est les gens qui votent et ils votent pour Emmanuel Macron. Autre piste écartée, l'augmentation des cotisations sociales et patronales.
Oui, piste évoquée par François Bayrou récemment, mais aussi défendue par les syndicats, l'augmentation des cotisations salariales et patronales. Exemple de la CFTC. Si on augmente de 5 euros les cotisations pour les entreprises et de 2 euros pour les salariés, on pourrait faire rentrer 6 à 7 milliards d'euros en 2030, soit la moitié du déficit prévu du régime des retraites. Alors pour le gouvernement, lui, ça veut dire prélèvement obligatoire sur les ménages et sur les entreprises, si on augmente les cotisations. Et donc là, ce que prévoit en tout cas Gabriel Attal, mais aussi Elisabeth Borne, c'est que ça va décourager les entreprises à embaucher. Une telle mesure, c'est 150 000 à 200 000 emplois supprimés, selon Gabriel Attal.
Nerissa, il y a aussi ce qu'on entend beaucoup dans les cortèges. Pourquoi on ne taxe pas les plus riches, tout simplement ?
Et bah d'ailleurs, Oxfam a sorti une étude la semaine dernière selon laquelle taxer à hauteur de 2% les 42 milliardaires français, ça permettrait de récupérer 12 milliards d'euros. Donc 12 milliards d'euros, ça financerait le déficit des retraites en 2030, totalement. Donc ça veut dire taxer les dividendes, par exemple.
Merci pour tous les chiffres, Nerissa. On retrouve William Galibert à l'Élysée. William, Nerissa vient de nous expliquer un petit peu les autres pistes qui auraient pu être retenues par l'exécutif. Pourquoi elles ont été balayées ?
Je ne sais pas si vous êtes très utile, parce que Pascal a résumé les choses en une phrase. Ce sont des gens qui votent pour Emmanuel Macron, donc ils n'allaient pas... voilà, que ce soit les retraités ou les entreprises. En fait, ce sont les limites qu'il a lui-même fixées au cours notamment de sa dernière campagne, en disant, avec moi, il n'y aura pas de hausse des taxes et pas de hausse d'impôts. Donc à partir de là, les solutions, elles sont assez limitées. Et puis, vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand, au début de son premier mandat, Emmanuel Macron a touché à la CSG et a demandé là un effort aux retraités. Il a entendu parler du pays et il est revenu en arrière, donc il était hors de question de revenir sur ces schémas-là. Quand vous ne voulez pas de hausse d'impôts, pas de hausse des cotisations salariales ou patronales et pas de baisse des pensions, il reste les solutions qu'on a actuellement, donc l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge. Et puis alors au gouvernement, on nous dit
Mais de toute façon, quelles que soient les pistes qu'on aurait retenues, cela aurait provoqué du mécontentement. Et finalement, on a choisi la solution la moins injuste. Voilà un peu le package qu'on nous emballe en ce moment du côté du gouvernement.
Merci beaucoup William Galibert dans la rue devant l'Elysée, c'est ce qu'on entendait derrière vous. Il fait froid, rentrez vite au chaud, merci William.
William Galibert dans la rue, c'est momentané, bien sûr. Il va revenir dans la rédaction. Ta-ta-tin, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est Renaud qui revient et qui prend la route. Oui, exactement. Et Steven Badry sera avec nous dans une seconde.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
On peut vivre sans richesse, presque sans dessous. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui le grand retour de Renaud sur scène.
5 ans et demi après la fin du Phoenix Tour, Renaud repart en tournée dès demain avec un spectacle baptisé Dans mes cordes. Steven Bellery, Renaud, vous avez pourtant dit au printemps dernier alors qu'il publiait un disque de reprise qu'il ne pourrait pas assurer une nouvelle tournée.
Oui, souvenez-vous, il m'avait dit que ça ne serait pas possible à cause de sa voix.
Je chante, c'est un peu laborieux. J'ai de plus en plus de mal à chanter, c'est pour ça que j'ai envisagé de ne pas faire de tournée avec cet album. Parce que j'ai trop galéré sur la dernière tournée en 2016 avec ma voix qui était enrouée, qui était rocailleuse. Elle dit toujours.
Pourtant, Renaud a changé d'avis. L'envie de retrouver son public a été plus forte. On se souvient que de 1999 à 2001, Renaud était parti en tournée avec uniquement un guitariste et un pianiste. Le pianiste, c'était Alain Lanty, devenu ami proche et complice musical de Renaud. À 70 ans, l'artiste va renouer avec la sobriété musicale. J'ai rencontré Alain Lanty à l'origine de ce nouvel écrin.
Deux quatuors, un piano et un accordéon. Les orchestrations sont simples, limpides, ce qui permet de remettre en lumière les paroles de Renaud. C'est un concert intimiste, très doux. Après le Phoenix Tour, il y a eu un petit passage à vide. Donc, il remonte sur le ring. Renaud a la capacité de se mettre à nu. C'est quelqu'un qui se livre. Tout le monde sait quelles ont été ses addictions. Tout le monde sait quelles ont été ses peines, ses joies, ses douleurs. Donc, le fait d'être à nu, là, vocalement et dans sa peau de chanteur, ne le dérange pas plus que ça. Voilà, il espère justement peut-être y retrouver une énergie nouvelle.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va.
Renaud en quête d'un nouveau départ. Je souris parce que l'émotion est toujours intacte avec Renaud. On est tous les quatre dans le studio, on l'écoute et on est pris par ce qu'il dit et comment il chante. Pourtant, le chanteur donc a débuté les répétitions avec nervosité, Steven.
Oui, notamment à cause des 8 musiciennes, 8 cordes qu'il a dû apprivoiser à la lentille.
Renaud était assez stressé. Déjà, il avait cette timidité de se montrer devant ces jeunes femmes qu'il ne connaît pas. Et il avait peur d'être jugé, peut-être, alors que elles sont pétrifiées à l'idée de rencontrer Renaud, de jouer pour et avec lui. Il y a eu une longue période, un long moment de gêne des deux côtés, et c'était merveilleux à voir. Moi, j'étais un petit peu entre les deux. Donc, il était, oui, effectivement, assez stressé de voir si le principe des cordes et de ses chansons fonctionnait. Et les choses, petit à petit, au bout de quelques jours de répétition, sont rentrées dans l'ordre. Et franchement, c'est extrêmement touchant.
J'ai voulu planter là où la chanson.
On l'entend, Steven, Renaud n'a plus sa voix d'antan, pourtant son public lui pardonne.
On s'en fout, me disaient tous ses fans à la sortie de ses concerts en 2016. Alain Lanty confirme que si on va applaudir Renaud aujourd'hui, ça n'est pas tant pour ses qualités d'interprète.
Je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter. Ils viennent pour partager, je crois, un moment avec lui, le voir et échanger des émotions. C'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relais. La rugosité, l'épaisseur de ce personnage, son bagage émotionnel continue d'émettre des vibrations et des émotions très très fortes. Il y a une dimension particulière dans l'adoration, une forme de dévotion, d'étourdissement général entre le public et Renaud, comme il pouvait se passer entre le public et Johnny Hallyday.
50 balais, c'est pas vieux.
Renaud est en tournée partout en France les 30 et 31 mai à l'Olympia, à Paris, au Francofolie de La Rochelle les 14 et 15 juillet.
Gamelle de Sagapelle.
Et demain soir, donc c'est la première.
C'est la première.
Il est où ? À Avignon.
Ouais.
À quelle heure?
Scala d'Avignon, vers 20h20.
C'est à la Scala
d'Avignon. Ouais.
C'est un événement.
C'est complet.
Il y a combien de personnes?
C'est une toute petite salle, hein, mais par contre, il va faire le tour de France. Il fait à Paris 3 salles différentes, d'ailleurs. C'est assez amusant.
Merci, Steven.
Merci, Steven. Les auditeurs dans une seconde. RTL Midi.